Notre engagement dans les énergies non polluantes n'était qu'une première étape vers la réduction de nos émissions. Il fallait également modifier nos habitudes en poussant les entreprises à repenser le chauffage et la climatisation de leurs locaux et en incitant les ménages à passer à la voiture verte. Nous espérions enclencher ce mouvement avec une loi sur le réchauffement climatique qui prévoyait des primes aux énergies non polluantes dans tous les secteurs de l'économie. Mais, d'après Lisa et Carole, nous n'avions pas besoin d'attendre le Congrès pour amorcer la transformation de certaines entreprises et de certains modes de consommation. Il nous suffisait d'utiliser toute l'étendue des pouvoirs de régulation prévus par la législation actuelle. Le plus important de ces outils était le Clean Air Act, une loi majeure de 1963 qui autorisait le gouvernement fédéral à contrôler la qualité de l'air et avait conduit à l'instauration de normes légales dans les années 1970. En outre, ce texte, auquel les deux parties du Congrès avaient réaffirmé leur soutien en 1990, stipulait que l'EPA pouvait réglementer les émissions automobiles qui causent ou accroissent, selon elle, une pollution atmosphérique présentant un danger plausible pour la santé ou le bien-être de la population. Si l'on accordait du crédit aux climatologues, il était évident que le dioxyde de carbone recraché par les tuyaux d'échappement constituait une pollution atmosphérique. Mais apparemment, ce n'était pas le cas du directeur de l'EPA nommé par Bush, c'est-à-dire qu'il n'accordait aucun crédit aux scientifiques. En 2003, il avait décrété que le Clean Air Act n'avait pas vocation à doter l'EPA d'un pouvoir de régulation des gaz à effet de serre, et quand bien même, lui n'avait pas l'intention de s'appuyer sur ce texte pour modifier les normes. Plusieurs États et associations écologistes avaient riposté par des actions en justice, et en 2007, avec le jugement Massachusetts versus EPA, la Cour suprême des États-Unis avait décidé à une courte majorité que l'action de l'EPA du président Bush n'était pas guidée par un raisonnement rationnel fondé sur les données scientifiques et lui avait ordonné de faire son travail. L'administration Bush n'avait plus bougé le petit doigt pendant les deux années suivantes, mais nous étions désormais en position de dépoussiérer la décision de la Cour suprême. Lisa et Carole ont préconisé que nous amassions des éléments scientifiques, déclarions que l'EPA était compétente pour la régulation des gaz à effet de serre et utilisions immédiatement cette autorité pour renforcer les critères d'efficacité énergétique applicables à tous les véhicules commercialisés aux États-Unis. C'était le contexte parfait pour ce type de décret. Bien que les constructeurs automobiles américains et le syndicat United Auto Workers soient opposés à ces normes, ma décision de continuer à soutenir leur secteur à coups de milliards via le programme TARP les avait rendus plus ouverts, comme le formulait si délicatement Carole. D'après Lisa, si nous agissions rapidement, les nouvelles réglementations pourraient entrer en vigueur avant que les constructeurs ne mettent leurs nouveaux modèles sur le marché. Nous pourrions ainsi réduire notre consommation de pétrole d'environ 1,8 milliard de barils par an et nos émissions de 20%. Nous créerions en outre un précédent autorisant l'EPA à réglementer les autres sources de gaz à effet de serre dans les années à venir. Pour moi, ce plan était une évidence, bien que je sois d'accord avec Ram sur le fait que, même avec l'appui des constructeurs automobiles, l'EPA n'arriverait pas à durcir les normes d'émission sans provoquer un tollé. L'abrogation des réglementations fédérales était une priorité absolue du Parti républicain, au même titre que les baisses d'impôts pour les riches. Depuis une dizaine d'années, des groupements patronaux et d'importants donateurs conservateurs, les frères Koch par exemple, finançaient une colossale campagne de communication visant à transformer le terme de « réglementation » en gros mots. Il n'y avait plus un édito du Wall Street Journal sans une attaque contre l'État régulateur devenu fou. Toute cette clique s'intéressait moins aux avantages et inconvénients des nouvelles normes environnementales qu'à l'aspect symbolique d'une nouvelle loi. Une fois de plus, les bureaucrates de Washington s'immisçaient dans la vie des gens, sapaient la vitalité économique de l'Amérique, enfreignaient le droit de propriété et subvertissaient le gouvernement représentatif voulu par les pères fondateurs. Je ne prêtais pas beaucoup d'importance à ces arguments. Déjà à l'ère progressiste, dans les années 1890-1920, les trusts pétroliers et les monopoles ferroviaires recouraient à ces mêmes éléments de langage dès que le gouvernement tentait de diminuer leur mainmise sur l'économie du pays. Idem pour les opposants au New Deal. Et pourtant, tout au long du XXe siècle, loi après loi et en coopération avec les deux parties, le Congrès avait continué à déléguer son pouvoir de régulation et de coercition à une foule d'agences spécialisées, depuis l'autorité des marchés financiers, SEC, à celle de la sécurité et de la santé au travail, OSHA, en passant par l'autorité fédérale de l'aviation civile, FAA. La raison en était simple. La société se complexifiait, la puissance des entreprises augmentait, Les citoyens se montraient de plus en plus exigeants envers leur gouvernement et les élus n'avaient plus le temps d'encadrer tous les secteurs économiques. Ils ne disposaient pas non plus des connaissances nécessaires pour légiférer sur l'équité des marchés financiers, évaluer les dangers d'un nouvel équipement médical, déchiffrer des données environnementales ou anticiper toutes les discriminations possibles à l'emploi sur des critères d'origine ethnique ou de genre. En d'autres termes, il ne pouvait y avoir de bonne gouvernance sans expertise. Il fallait des organismes publics chargés de prêter attention aux choses importantes pour que le reste de la population n'ait pas à le faire. Grâce à ces experts, nous avions moins à nous préoccuper de la qualité de l'air ou de l'eau, nous disposions d'un recours lorsque notre employeur refusait de payer les heures supplémentaires qui nous étaient dues, nous savions que les médicaments en vente libre n'allaient pas nous tuer, et les véhicules étaient considérablement plus sûrs que 20, 30 ou 50 ans auparavant. L'État régulateur que fustigeaient tant les conservateurs avait immensément amélioré la vie des Américains. Cela ne signifiait pas pour autant que les réglementations fédérales étaient exemptes de reproches. Il arrivait qu'une bureaucratie tatillonne embête inutilement les entrepreneurs ou retarde l'entrée sur le marché de produits innovants. Certains règlements coûtaient davantage qu'ils ne rapportaient. Dans ce domaine, les associations écologistes avaient une dent contre une loi de 1980 établissant qu'une obscure sous-agence, le Bureau des informations et réglementations, OIRA, devait réaliser une analyse coût-bénéfice pour chaque nouvelle régulation fédérale. Les écologistes affirmaient que ce processus favorisait les entreprises, et ils n'avaient pas tort. Il était bien plus facile de mesurer les pertes et les bénéfices d'une entreprise que de chiffrer la sauvegarde d'une espèce d'oiseau en danger ou la diminution de la probabilité qu'un enfant développe de l'asthme. Il me semblait cependant que les progressistes ne pouvaient se permettre de négliger les aspects économiques de leur politique. Quand on croit en la capacité du gouvernement à résoudre les grands problèmes, on ne peut pas se contenter de faire confiance à la justesse de ses intentions. On doit aussi se pencher sur les effets réels de ses décisions. Si un texte proposé par une agence pour préserver une zone humide empiétait sur les terres d'une ferme, l'agence devait prendre en compte les pertes du fermier. C'est précisément parce que cet aspect était important pour moi que j'ai nommé à la tête de l'OIRA Cass Sustain, un de mes anciens collègues à l'Université de Chicago, qui serait notre expert en calcul coût-bénéfice. Éminent spécialiste du droit constitutionnel, auteur d'une douzaine d'ouvrages et souvent pressenti pour la Cour suprême, Cass lui-même a insisté auprès de moi pour obtenir ce poste, témoignant de sa volonté de se mettre au service du public, de son indifférence au prestige, et d'un côté bon élève très prononcé qui faisait de lui le candidat idéal. En plus de tout cela, c'était la crème des hommes, un excellent joueur de squash et la personne la plus bordélique avec qui j'ai jamais travaillé. Au cours des 3 années suivantes, Cass et sa petite équipe ont travaillé d'arrache-pied dans leur bureau anonyme situé en face de la Maison Blanche pour vérifier que les coûts des réglementations que nous proposions se justifiaient par les avantages qu'elles apportaient à la population. Je lui ai aussi demandé d'évaluer toutes les dispositions fédérales existantes pour que nous puissions nous débarrasser de celles qui étaient superflues ou obsolètes. Et il a déterré de sacrés trucs. D'anciens textes à cause desquels les hôpitaux, médecins et infirmières dépensaient chaque année plus $1 milliard en paperasse et en démarches administratives, un curieux règlement environnemental qui classait le lait dans la catégorie pétrole, avec pour conséquence un coût annuel dépassant les $100 millions pour les producteurs, et un mandat absurde obligeant les chauffeurs routiers à remplir tellement de papiers après chaque trajet que le temps perdu se chiffrait à $1,7 milliard. À part ça, l'écrasante majorité des réglementations a résisté à l'examen, et au terme de ma présidence, même les analystes républicains reconnaîtraient que nos mesures rapportaient 6 fois plus qu'elles ne coûtaient. La proposition de Lisa et Carole de durcir les normes d'émission était justement une de ces mesures. Dès que je leur ai donné mon feu vert, elles se sont mises au travail. Elles avaient un bon partenaire en la personne de mon secrétaire au transport, Ray LaHood, ancien représentant de l'Illinois et républicain courtois à l'ancienne mode, apprécié dans les deux camps pour sa nature sociable et son authentique respect du bipartisme. Et ainsi, un beau jour de mai, dans la Roseraie, flanqué d'un groupe de dirigeants du secteur automobile et du président de l'UAW, j'ai annoncé un accord prévoyant des voitures et camions 20% plus économes à l'horizon 2016. Nous visions une réduction des émissions de plus de 900 millions de tonnes sur la durée de vie de ces véhicules, ce qui revenait à retirer de la circulation 177 millions de voitures ou à fermer 194 usines à charbon. Ce jour-là, les constructeurs automobiles se sont exprimés d'une seule voix, assurant qu'ils atteindraient les objectifs fixés et que leur secteur gagnerait à se conformer à une norme nationale unique plutôt qu'à un patchwork de dispositions étatiques. La presse a été surprise que nous soyons parvenus à un accord aussi vite et sans heurts, et plusieurs journalistes ont demandé à Carole si cette harmonie nouvelle pouvait avoir un lien avec le renflouement de l'industrie automobile. « Il n'a jamais été question du renflouement au cours des négociations », a insisté Carole. Un peu plus tard, dans le bureau ovale, je lui ai demandé si c'était la vérité. « Absolument », m'a-t-elle répondu. « Bien sûr, je ne peux pas certifier que ça ne leur a jamais effleuré l'esprit. » En parallèle, j'avais chargé Stephen Chu de mettre à jour toutes les normes énergétiques qu'il pourrait trouver, au moyen d'une loi peu appliquée de 1987 qui conférait au département de l'énergie le pouvoir d'encadrer la consommation de tous les appareils électriques, aussi bien les ampoules que les climatiseurs. Il était aussi excité qu'un gamin lâché dans un magasin de bonbons et me racontait tous ses exploits en détail. « Vous n'imaginez pas tout ce que ça changerait pour l'environnement si les réfrigérateurs étaient seulement 5% plus économes ! » Et même si j'avais du mal à partager son enthousiasme au sujet des lave-linges et sèche-linges, les résultats étaient pour le moins stupéfiants. À la fin de ma présidence, les nouveaux appareils promettaient une baisse de nos émissions à hauteur de 210 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Au cours des années suivantes, les fabricants de voitures et d'appareils électroménagers se conformeraient en avance et sans histoire aux objectifs les plus exigeants, confirmant l'axiome de Stephen selon lequel, à condition d'être bien conçu, une régulation ambitieuse pousse les entreprises à innover. Si les consommateurs remarquent que les voitures ou les appareils moins gourmands en énergie sont parfois plus chers, ils ne s'en plaignent pas. La différence se compense vraisemblablement sur leur facture d'électricité ou à la pompe, et en règle générale, les prix diminuent lorsque ces nouvelles technologies deviennent la norme. À notre surprise, même McConnell et Benner ont accueilli sans trop broncher nos réglementations énergétiques. Ils n'y voyaient peut-être pas un cheval de bataille intéressant et préféraient ne pas détourner l'attention de leur combat contre l'Obamacare. Mais tous les républicains n'ont pas fait preuve de la même retenue. Un jour, Pete Rouse est venu me montrer des extraits d'interventions médiatiques de Michelle Bachmann, représentante du Minnesota et fondatrice du groupe Tea Party à la Chambre, qui se présenterait ensuite à la présidentielle de 2012. Bachmann qualifiait les nouvelles ampoules à économie d'énergie d'intrusion de Big Brother et de danger pour la santé publique. Elle dénonçait par ailleurs un complot démocrate cherchant à imposer un extrémisme de la durabilité qui, à terme, obligerait tous les citoyens américains à déménager dans les grandes villes, à habiter dans des appartements et à prendre un train électrique pour aller travailler pour le gouvernement. « Monsieur le Président, j'ai l'impression que notre secret a été découvert », m'a dit Pete. J'ai acquiescé gravement. « On ferait mieux de planquer les corbeilles à papier ». Si les voitures et les lave-vaisselles étaient un pas en avant, nous savions qu'il n'y aurait pas de changement profond sans législation climatique globale adoptée par le Congrès, sans un texte s'appliquant à tous les secteurs de l'économie qui contribuaient aux émissions de gaz à effet de serre et pas uniquement aux véhicules et appareils ménagers. En prime, les articles de presse et les conversations suscitées par les débats législatifs contribuerait à ancrer dans les esprits les dangers du réchauffement, et si tout se passait bien, le Congrès s'approprierait le produit fini. Peut-être plus important encore, une loi fédérale aurait un pouvoir réel et durable, contrairement aux décrets qui pourraient être annulés unilatéralement par un futur gouvernement républicain. Naturellement, tout cela dépendrait de notre capacité à triompher d'une obstruction des sénateurs républicains, et contrairement au Recovery Act pour lequel nous avions réussi à mobiliser dans notre seul camp tous les votes dont nous avions besoin, Harry Reid m'a prévenu que cette fois, nous allions forcément perdre quelques sénateurs démocrates des États pétroliers et houillés, dont la réélection s'annonçait déjà incertaine. Pour obtenir 60 voix, nous allions devoir convaincre au moins 2 ou 3 républicains de soutenir une loi à laquelle la majorité de leurs électeurs s'opposait fermement et que Mitch McConnell avait juré d'enterrer. Nous avons d'abord pensé que notre meilleur atout serait le type que j'avais battu à la présidentielle. Pendant sa campagne, John McCain avait minimisé son adhésion à l'idée d'une loi contre le réchauffement climatique, surtout après avoir désigné une colistière, Sarah Palin, dont la politique énergétique « forêt les gars, forêt » avait les faveurs de la base militante. Mais à son crédit, McCain n'avait jamais complètement abandonné ses anciennes positions et dans la très courte fenêtre de bonne entente suivant mon élection, nous avions évoqué la possibilité d'œuvrer ensemble à faire passer un texte sur le climat. Après ma prise de fonction, McCain avait uni ses forces à celles de son plus grand ami au Sénat, Joe Lieberman, afin d'élaborer une contre-proposition transpartisane au projet plus orienté à gauche de Barbara Boxer, la démocrate de Californie qui dirigeait la commission de l'environnement et des travaux publics. Malheureusement, le compromis à la sauce McCain était passé de mode dans les cercles républicains. La droite méprisait le sénateur encore plus qu'avant, attribuant à la tiédeur de son conservatisme les pertes que le parti avait subies à la Chambre et au Sénat. Fin janvier 2009, un ancien élu devenu animateur sur une radio de droite, J.D. Hayworth, a laissé entendre qu'il pourrait se présenter contre McCain l'année suivante à la primaire de l'Arizona. Pour la première fois depuis son entrée au Sénat, 22 ans plus tôt, il aurait en face de lui un opposant sérieux. J'imagine que l'indignité de la situation a fait bouillir McCain, mais son instinct politique a dû lui ordonner de sécuriser rapidement son flanc droit. Et ce n'était certainement pas en s'associant à moi pour faire adopter une loi environnementale majeure qu'il allait y parvenir. Nous avons bientôt appris par le cabinet de Lieberman que McCain retirait ses billes. Pendant ce temps, à la Chambre, aucun républicain n'envisageait un instant d'appuyer une législation sur le climat. Cela laissait aux deux démocrates de la commission en question, Henry Waxman, Californie, et Ed Markey, Massachusetts, toute latitude pour rédiger leur propre projet et le faire passer avec les seules voix démocrates. À court terme, cela nous simplifiait la vie. Waxman et Markey étaient grosso modo sur la même longueur d'onde que nous. Leurs équipes savaient ce qu'elles faisaient et ils étaient ouverts à nos suggestions. Mais cela signifiait aussi que ces deux représentants n'estimaient pas utile de tenir compte des positions plus centristes qui existaient au sein de leur groupe, et leur texte serait probablement lu comme une liste de leurs exigences en matière environnementale, ce qui allait provoquer une crise cardiaque chez plusieurs sénateurs indécis. Afin d'éviter que la Chambre et le Sénat ne se retrouvent dans l'impasse, Ram a confié à Phil Schiliro la tâche peu enviable d'inviter Waxman à ouvrir le dialogue avec les sénateurs susceptibles de soutenir le texte, dont Lieberman, de façon à prendre de l'avance en réduisant le fossé entre les deux chambres. Une semaine plus tard environ, j'ai convoqué Phil dans le bureau ovale et je lui ai demandé comment s'était déroulée sa conversation avec Waxman. Il a laissé tomber sa grande carcasse sur le canapé, a pris une pomme dans la corbeille à fruits sur la table basse et a haussé les épaules. « Pas génial », a-t-il répondu, à mi-chemin entre le gloussement et le soupir. Avant d'intégrer mon équipe, Phil avait travaillé pendant plusieurs années dans le cabinet de Waxman et l'avait même dirigé. Les deux hommes se connaissaient donc bien. Il m'a raconté que Waxman l'avait écouté, puis lui avait fait part de l'exaspération que les démocrates de la Chambre éprouvaient envers ceux du Sénat et envers nous, à cause de ce qu'ils considéraient comme une kyrielle de péchés successifs. Nous avions revu le Recovery Act à la baisse, nous n'étions même pas parvenus à soumettre au vote plusieurs de leurs textes par peur de placer des sénateurs modérés ou conservateurs en position délicate, et de manière plus générale, nous étions des abrutis et des lâches. D'après lui, le Sénat est le cimetière des bonnes idées, a résumé Phil. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire, ai-je acquiescé. On va devoir régler ça en commission mixte, une fois que chaque chambre aura voté son propre texte, a conclu Phil en s'efforçant de mettre un peu d'optimisme dans sa voix. Une chose pouvait cependant nous aider à éviter que la Chambre et le Sénat ne se tournent complètement le dos. Pour Lieberman et Boxer, ainsi que pour les démocrates de la Chambre et la majorité des associations écologistes, le mécanisme le plus à même de faire diminuer nos émissions était un système de cap and trade, de plafonnement et d'échange, semblable à celui que j'avais prôné pendant la campagne. Le gouvernement fédéral fixerait une limite aux émissions de gaz à effet de serre des entreprises, laissant à chacune le soin de trouver comment s'y conformer. Celle qui dépasserait le plafond devrait payer des pénalités. Celle qui resterait en deçà pourrait revendre leurs crédits inutilisés à des sociétés moins efficaces. En donnant un coût à la pollution et en créant un marché pour le respect de l'environnement, cette approche incitait les entreprises à développer et adopter des technologies vertes. Et chaque fois qu'une nouvelle technologie serait inventée, le gouvernement pourrait baisser un peu plus les plafonds, encourageant un cycle constant et vertueux d'innovation. Ce n'était d'ailleurs pas la seule manière de chiffrer la pollution atmosphérique. Certains économistes trouvaient plus simple d'imposer une taxe carbone sur tous les carburants fossiles, de façon à augmenter leurs coûts et à décourager leur usage. Mais une des raisons expliquant que tout le monde ait convergé vers la solution de plafonnement et d'échange était qu'elle avait déjà été essayée avec succès, et par un président républicain. En 1990, le gouvernement de George H. W. Bush avait mis en place un système de cap and trade pour limiter les rejets industriels de dioxyde de soufre, une des causes des pluies acides qui détruisaient les lacs et les forêts de la côte Est. Malgré les cassandres annonçant des fermetures d'usines et des plans sociaux massifs, les entreprises étaient rapidement parvenues à se moderniser en préservant leur rentabilité et quelques années plus tard, le problème des pluies acides était pratiquement réglé. Toutefois, un système de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre devrait opérer à une échelle bien plus grande et se révélerait donc bien plus complexe. Cela promettait des débats houleux au sujet du moindre détail, les lobbyistes seraient omniprésents et les membres du Congrès demanderaient tous des concessions en échange de leur vote. Et, comme me l'apprenait la loi sur la santé, le fait que les Républicains aient un jour soutenu une idée portée par un des leurs ne signifiait pas qu'ils appuieraient cette même idée lorsqu'elle viendrait d'un président démocrate. Mais j'étais bien obligé de me répéter que l'existence d'un précédent serait un réel avantage pour faire passer notre loi. Carole, Phil et les conseillers législatifs de la Maison-Blanche ont passé presque tout le printemps 2009 à faire des allers-retours entre les deux chambres, à pousser le projet, à lisser les problèmes et à fournir aux principaux parlementaires, ainsi qu'à leur cabinet, la documentation technique et l'aide politique dont ils avaient besoin. Et cela alors que, grâce à l'implication de toute l'équipe, nous continuions à tenter de sauver l'économie, donnions forme à la loi sur la santé, mettions en place des règles d'immigration, nommions des juges et portions devant le Congrès une dizaine d'autres initiatives. Avec toute cette activité, il régnait dans le bureau de RAM, décoration minimale, en son centre une grande table de réunion généralement jonchée de gobelets de café et de canettes de Coca Light, avec parfois une barre de chocolat entamée, l'atmosphère caféinée d'une tour de contrôle. Et puis, un jour chaud et humide de la fin juin, notre labeur a commencé à payer. Le secrétariat social de la Maison-Blanche avait organisé un pique-nique pour le personnel sur la pelouse sud, et je venais de me mettre à circuler entre les groupes, prenant des bébés dans les bras et posant pour la photo avec les fiers parents des membres de mon staff, quand Ram est arrivé en courant, une feuille de papier à la main. « Monsieur le Président, la Chambre vient d'adopter la loi sur le climat. »« Génial !» ai-je répondu en lui tapant dans la main. « C'était serré ?» Ram m'a montré le décompte des votes, 219 à 212. On a eu 8 républicains modérés avec nous. On a perdu 2 démocrates sur lesquels on comptait, mais je vais m'en occuper. Vous, il faudrait que vous appeliez Nancy, Waxman et Marquet pour les remercier. Ils ont vraiment travaillé leurs collègues au corps. Ram ne vivait que pour ces journées où nous remportions de franches victoires. Mais tandis que nous regagnions le bureau ovale, nous arrêtant en chemin pour saluer quelques personnes, j'ai remarqué que mon directeur de cabinet, d'habitude si expansif, paraissait un peu maussade. Il m'a expliqué ce qui le tracassait. Le Sénat n'avait pas encore rendu son texte public et n'était donc pas prêt de le soumettre aux commissions appropriées. En outre, McConnell avait un don remarquable pour retarder et enrayer les votes. Étant donné la longueur de la procédure, notre fenêtre de tir pour faire adopter un texte sur le climat avant la suspension des travaux parlementaires en décembre se refermait rapidement. Ensuite, nous aurions encore plus de mal à mener le projet à terme, car à la Chambre comme au Sénat, les démocrates rechigneraient à voter une loi importante et controversée alors qu'ils commenceraient tout juste à faire campagne pour les élections de mi-mandat. « Ne jamais perdre l'espoir, mon frère », lui ai-je dit en lui tapant dans le dos. Ram a hoché la tête, mais ses yeux, encore plus sombres qu'à l'accoutumée, trahissaient ses doutes. « Je ne suis pas sûr qu'on ait une piste assez longue pour poser tous ces avions », a-t-il dit. Comprendre, au moins un finirait par s'écraser.